Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui par exemple, une série autour de la danse et un mix de musique classique et de rap. Oui, ça existe. On va retrouver bien avant ça Bruno Donnet qui a regardé pour nous le tout premier débat télévisé entre les candidats et candidates à la primaire écologiste. Il y aura également Marc-Antoine Lebray en toute fin d'émission et dans une poignée de secondes, le journal des médias et les audiences télé d'hier soir et du week-end avec Louise Bernard. Notre infomédia, en marge du procès des attentats du 13 novembre qui s'ouvre après-demain et qui ont fait 130 morts, faut-il hélas le rappeler, BFM TV diffuse ce soir un documentaire sur les 4 mois de traque des terroristes dont Salah Abdeslam. On en parle avec Marc-Olivier Fogiel, c'est le directeur général de BFM TV et la journaliste Pauline Revenaz qui signe ce documentaire. Et puis nos invités, Antoine Decaune qui démarre sa saison sur Canal+ avec l'émission Profession musicien ou musicienne, 6 chanteurs et chanteuses autour d'une table. Et c'est assez rare pour être signalé, on n'entend aucune note de musique. Il nous dira pourquoi. Enfin, Zabou Breitman, pour un seul en scène hors norme, Dorothy, en hommage à une femme hors norme, Dorothy Parker, star de l'édition dans les années 30 et de la presse et du journalisme, vous allez comprendre. C'est Zabou qui a tout fait, en plus de l'incarner, l'écriture, la mise en scène, les lumières et même les costumes. Il y aura également son portrait pré-fame avec Lisa Marie Marquez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
La nouvelle série de TF1 ce soir, des dessinateurs de presse qui interpellent Emmanuel Macron, les Inrocks condamnés, les droits du rugby et puis un coach qui confirme son départ de The Voice Kids.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Alors ils ont largement regardé Le Grand Bain, ce film qui était diffusé pour la première fois, 4 220 000 téléspectateurs, 22% de part d'audience pour la première fois gratuitement, je précise. Deuxième, France 3 avec Commissaire Dupin, le premier épisode a attiré 3 25 000 téléspectateurs, 14,4% de part d'audience. Et puis troisième, M6, Capital, sur le pouvoir d'achat des Français, 2 470 000 téléspectateurs, 12,8% de part d'audience. C'est mieux que la précédente émission.
On passe aux audiences du week-end et on commence par samedi soir.
Oui, M6 était leader, c'est rare, mais bon, il y avait foot. C'était le match de l'équipe de France, Ukraine-France. 5 230 000 téléspectateurs. Derrière, France 3 résiste plutôt bien avec Meurtre en Pays Qatar, d'autant que c'était une rediffusion, 3 100 000 téléspectateurs. Puis déception pour La Chanson secrète sur TF1, qui finit troisième donc. Et avec 2 350 000 téléspectateurs seulement, c'est la moins bonne audience depuis son lancement.
En deuxième partie de soirée, samedi soir sur France 2, il y avait le lancement de la nouvelle formule de On est en direct, avec un duo désormais Laurent Ruquier et Léa Salamé. Est-ce qu'il y a eu un effet sur les audiences?
Non, pas vraiment. Il faudra voir dans le temps, mais samedi soir, en tout cas, l'émission a été suivie par 709 000 téléspectateurs, presque 100 000 de moins que l'émission de rentrée l'an passé.
On finit par les audiences de vendredi soir.
Oui, Candice Renoir, indétrônable sur France 2, la série a été suivie par 4 400 000 téléspectateurs. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière, mais il n'y avait qu'un épisode inédit. Deuxième place pour TF1 et l'émission de Jarry Game of Talents. En hausse, là, par rapport à la semaine dernière, 2 980 000 téléspectateurs. Et puis troisième place pour M6 avec sa traditionnelle série NCIS, 2 millions de téléspectateurs.
Culture Média.
Le journal des médias maintenant, Louise Bernard avec à la une, la nouvelle série de TF1 ce soir.
Ouais, c'est une mini-série haletante de 4 épisodes, une mère parfaite. Cette mère, c'est Julie Gayet qui l'incarne. Elle se retrouve à aider sa fille accusée de meurtre en se lançant dans sa propre enquête avec l'aide d'un avocat joué par Thomas Sisley, avocat qui se trouve être son amour de jeunesse. Et au fur et à mesure, le doute s'installe. Sa fille est-elle aussi innocente que sa mère le pense ?
T'as pas complètement oublié ta petite maman chérie?
Maman, la police vient me parler.
Il s'est passé quoi?
Il y a eu un mort. Il pense que c'est moi qui l'ai tué.
Votre fille est mise en cause dans une affaire d'homicide. Si vous voulez vraiment l'aider, trouvez le meilleur avocat.
J'ai besoin de ton aide. Faut la sortir de là.
Mon fils a été assassiné. Je veux que justice soit faite.
Son ADN sur le couteau est partout sur le corps de la victime. Elle a menti.
Je l'ai pas tué. Je sais plus quoi penser. Je veux des réponses.
Il faut que tu me laisses faire.
Si c'était ton fils, tu laisserais faire. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Série portée par une jeune actrice, Eden Ducourant, et Julie Gayet, donc, qui a adoré le côté thriller de la série. Et c'est vrai que jusqu'au dernier épisode, on doute, on ne sait jamais comment ça va finir. Et la série aborde en toile de fond bien d'autres sujets chers à Julie Gayet, c'est ce qu'elle nous a confié.
Ça faisait longtemps que sur toutes ces questions sur la place des femmes, sur les violences faites aux femmes, sur la question des relations mère-fille, ça fait très longtemps que je cherchais un projet où on puisse raconter ça. On est toujours vu les mères qui sont très mères, qui se sacrifient pour leurs enfants, seraient des bonnes mères, versus les mères qui travaillent des moins bonnes mères. Enfin, tout cette idée de bonne ou mauvaise mère, de bons points sur les mères. Voilà, ça faisait longtemps, moi, en tout cas, que ces questions-là me travaillent. Et j'ai adoré la série pour ça, parce qu'elle nous embarque d'épisode en épisode. Vous verrez, ça déconstruit le schéma de ces mères parfaites.
Julie Gayet dans Une mère parfaite, c'est donc ce soir sur TF1 à 21h05 et deux épisodes seront diffusés.
Une tribune dans le journal du dimanche appelle Emmanuel Macron à défendre la caricature.
Oui, tribune de 6 dessinateurs de presse et de Maryse Wolinski, la veuve de Georges Wolinski, dessinateur de Charlie Hebdo assassiné en janvier 2015. Ensemble, ils appellent le président au respect de la parole donnée, c'est-à-dire à créer une maison du dessin de presse et du dessin satirique. C'est un souhait qu'Emmanuel Macron avait émis en 2020. C'est en réalité une idée de Georges Wolinski qui date des années 2000. Les signataires de la tribune soulignent l'importance d'un lieu pour aider à défendre, diffuser, rendre accessible à tous les caricatures. Un langage qui s'apprend, je cite, un lieu pour soutenir les dessinateurs, ne pas les laisser seuls. Ne pas laisser seuls les professeurs et les associations sur le terrain.
Le magazine Les Inrecuptibles, condamné au prud'homme.
Oui, pour avoir licencié, sans cause réelle et sérieuse, son ancien rédacteur en chef, David Doucet. Il avait été licencié en 2019 suite à une affaire très médiatisée. Vous vous en souvenez peut-être, ça avait fait beaucoup de bruit dans les rédactions. Ouais. Affaire dite de la Ligue du LOL, des journalistes et communicants ont été accusés de harcèlement sur Internet. David Doucet avait reconnu avoir été l'auteur de deux canulars téléphoniques et s'était excusé. Et pour les Inrecuptibles, le licenciement pour faute grave était justifié par l'impact négatif sur l'image du journal. Le magazine a été condamné à verser 20 000 euros d'indemnité et 25 000 euros de dommages et intérêts.
Tout à fait autre chose, TF1 diffusera le rugby jusqu'en 2023.
Oui, la chaîne conserve les droits qu'elle avait déjà. La Une proposera donc à ses téléspectateurs le mondial féminin à l'automne 2022 qui aura lieu en Nouvelle-Zélande et le mondial masculin en 2023 qui lui aura lieu en France. TF1 n'a pas rendu public le montant de la transaction. Le Figaro avance le chiffre de 50 à 60 millions d'euros pour l'intégralité des droits des deux compétitions. On ne sait pas encore si TF1 cédera une partie des matchs à d'autres chaînes. Ça a été parfois le cas dans le passé.
The Voice, TF1 toujours.
On n'est plus dans le rugby.
Soprano ne fera pas la prochaine saison de The Voice Kids.
Non, alors c'est une information qui circulait déjà cet été, mais cette fois elle est confirmée par le chanteur lui-même. La faute à un problème d'emploi du temps, sa tournée est incompatible avec les dates d'enregistrement du programme. Il était coach depuis 2018, depuis la saison 5. Jennifer ne sera pas non plus de la partie, elle veut se consacrer à son nouvel album. Alors qui pour les remplacer? Deux noms sont évoqués par la presse, deux pistes sérieuses, hein, très sérieuses, Julien Doré et Louane. TF1 n'a pas encore confirmé et Soprano n'exclut pas de revenir dans les prochaines saisons, lui.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain.
À demain.
Pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour, la traque du siècle. C'est le titre du documentaire que diffuse ce soir BFM TV. Le sujet, c'est la traque de Salah Abdeslam, l'un des auteurs des attentats. Nous en parlons avec la journaliste Pauline Revenaz qui signe ce documentaire et le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Après-demain, mercredi, s'ouvre à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015. Attentats qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés. Procès hors normes, qui aura lieu dans une salle spécifiquement créée au Palais de Justice, pouvant accueillir les 1775 parties civiles, les 330 avocats et les 20 accusés, dont l'un d'eux, Salah Abdeslam, qui a été traqué pendant 4 mois par les services de police et de renseignement français et belges. Il était l'un des cerveaux de ces attentats. À cette occasion, BFM TV diffuse ce soir une série documentaire en 3 épisodes qui raconte sa traque après les attentats. Pour en parler, on reçoit Pauline Revenaz et Marc-Olivier Fogiel. Bonjour.
Bonjour.
Pauline Bonjour, Revenaz, Philippe. Vous êtes journaliste à BFM TV et à l'origine de cette série documentaire que vous signez, et Marc-Olivier Fogiel, vous êtes le directeur général de BFM TV, faut-il le rappeler. On va aborder évidemment aussi l'ensemble de la rentrée de la chaîne.
Avec plaisir.
Marc-Olivier Fogiel, c'était important que BFM TV investigue sur ce sujet.
Bah oui, c'est évidemment le sujet d'actualité de rentrée qui va marquer toute l'année, 9 mois de procès. Et la valeur ajoutée de BFM TV, c'est justement de pouvoir sortir de l'information, accompagner, finalement le flux continu d'une valeur ajoutée. Ce qu'a fait Pauline Revenaz et les équipes de Ligne Rouge illustre ça. BFM TV, ce n'est pas que l'info à l'instant T, mais c'est cette valeur ajoutée. C'était important d'amener une valeur ajoutée à ce procès.
C'est une des marques que vous avez installées à votre arrivée sur BFM TV. Sortir de la boucle d'info pour aller vers du doc.
Hervé Béraud avait installé cette cellule avant moi, et puis le succès de BFM TV a permis d'avancer et de perfectionner encore et donner encore plus de moyens à cette cellule qui, d'ailleurs, cette année, devrait faire encore plus de 52 minutes. En fait, c'est le cercle vertueux de BFM TV. Le succès de la grille permet de donner des moyens aux journalistes de travailler puisque, comme vous le savez, l'info coûte cher et fabriquer du doc, comme l'a fait Pauline. Pauline est restée plusieurs mois, 5 mois, à travailler sur ce doc. Ça coûte cher de faire de l'info et c'est le succès de BFM TV qui permet ça.
Ça allait être ma question. Pauline Revenaz, comment avez-vous travaillé sur ce documentaire ?
J'ai plongé dans le dossier, des milliers et des milliers de pages. Il y a 517 tomes. Et vous mettez le doigt dedans, il y a le bras qui part avec. Donc il a fallu d'abord énormément se documenter et ensuite réfléchir, se dire qu'est-ce qu'on veut raconter. Et nous, en fait, on s'est mis dans les yeux des enquêteurs juste après l'assaut du Bataclan. Paris est vide. Il est 6h du matin, c'est une gigantesque scène de crime. Et on va, dans les yeux des enquêteurs, essayer de remonter le fil et croiser deux destins, celui de Salah Abdeslam qui part en cavale pendant 4 mois et celui d'Abdelhamid Abaoud qui va être neutralisé 4 jours après les attentats. Et en croisant ces deux destins de ces deux terroristes encore en vie, c'est l'histoire qu'on a voulu raconter en 3 épisodes.
Une série documentaire qui montre des images violentes. C'est un événement violent, souvent filmé par des témoins. Les assauts du Rail, les assauts policiers belges, les photos de Salah Abdeslam blessé que je n'avais jamais vu. Vous souhaitiez montrer la réalité.
Il n'y a pas beaucoup d'images violentes. Il y a effectivement les images de l'arrestation.
Alors, je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup et ce n'est pas un reproche que je vous fais. Mmh. C'est que habituellement sur les autres chaînes, ces images-là sont édulcorées, floutées.
Mais en fait, c'est le talent de Pauline du récit parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec vous, Philippe. Il en ressort quelque chose de très intense et on a l'impression d'avoir vécu pendant 70 minutes au cœur de la violence. En fait, quand vous voyez le doc de façon clinique, à part une ou deux images, et notamment cette image de l'arrestation de Salah Abdeslam, il n'y a pas d'image violente.
Mais je le confirme.
Elle arrive à vous plonger dans une atmosphère et dans un récit haletant, puisque c'est son pari pendant 70 minutes d'accompagner finalement l'enquête. Et on est pris par quelque chose qui est très fort et qui nous fait revivre évidemment ce qu'on a vécu tous autant qu'on est il y a quelques années, mais finalement avec très peu d'images sanglantes. Hein.
Y a une séquence absolument hallucinante dans laquelle on apprend que Salah Abdeslam, pendant un contrôle de police, a répondu à un micro-trottoir avec ses complices depuis sa voiture. La journaliste leur demande ce qu'ils pensent justement de ces contrôles.
Certains automobilistes sont arrêtés à chaque contrôle, comme ces 3 jeunes de type maghrébin.
Avec celui-là, c'est le troisième.
Troisième contrôle.
Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Hein. Mais on a compris un petit peu le sens.
Le pourquoi, en fait. Après, on a su le pourquoi.
Un sang-froid qui fait froid dans le dos. Comment vous avez appris l'existence de ce micro-trottoir ?
En lisant beaucoup de papiers, en recroisant des informations et surtout en trouvant le PV pendant lequel Salah Abdeslam, en détention, raconte à ses co-détenus qu'il a été contrôlé. Et en croisant ces informations-là, on a retrouvé cette archive. Et aujourd'hui, on peut dire que donc, c'est la RTBF qui a fait ce micro-trottoir, puisque ce matin, il confirme cette information-là.
Salah Abdeslam était présent lors des attentats. Il ne participe pas aux fusillades. Il abandonne alors son véhicule dans le 18e arrondissement de Paris, puis jette sa ceinture explosive dans une poubelle à Rouge. On n'arrive pas à savoir si ça a fonctionné, pas fonctionné. Quelle est votre intime conviction ?
Alors moi, je n'ai pas d'intime conviction. J'ai une expertise sur le gilet qui dit que le gilet était défectueux. La seule question qui vaille, c'est est-ce que Salah Abdeslam a eu envie de l'actionner ? Et ça, il est le seul à avoir la réponse aujourd'hui. La donnera-t-il ? C'est un autre enjeu.
Hier soir, Marc Trévidic sur BFM TV au micro de Jean-Baptiste Boursier raconte ça très bien. Raconte comment finalement ces kamikazes ont une part d'inconscient et certains d'entre eux finalement au moment de se faire sauter ne le font pas. Alors peut-être sans décider lui-même de abîmer son gilet qui devait exploser, mais en le branchant mal de façon inconsciente. Et c'est une des questions et c'est assez passionnant d'ailleurs de comprendre ça, de se mettre dans la tête des terroristes. Et cette interview hier de Marc Trévidic était passionnante pour ça, comprendre ce qui conditionne ces gens. Et finalement, il y a une part d'humain chez eux, notamment peut-être chez Abdeslam, inhumain évidemment, mais aussi une part de quelque chose qui fait que peut-être il n'a pas envie de se faire sauter.
Évidemment, on ne va pas tout raconter ici, on perd la trace de
Salah Abdeslam. Non, regardez-le surtout, c'est le plus important. Hein.
Je l'ai vu, je m'adresse aux auditeurs, regardez-le. On met 125 jours à l'arrêter, la police belge parvient à le localiser chez son cousin dans la banlieue de Bruxelles. La maison est surveillée, mais là, il y a un événement qui oblige la police à avancer l'opération. Écoutez.
Malheureusement, dans un média français, c'est le Nouvel Obs, l'information paraît que Salah Abdeslam se trouvait dans la rue du Driss, qu'il y a des empreintes. Et à ce moment-là, ben, je suis obligé, avec la juge d'instruction, de prendre la décision d'avancer l'opération.
Pauline Revenaz, vous faites la grimace en entendant ça. Il y a le Nouvel Obs qui a une info, qui sort l'info. Et en même temps, vous êtes journaliste. Quand on a une info, il faut la sortir. C'est quoi la limite? Je demande votre avis. Ensuite, c'est une Marc-Olivier Fogiel.
Bah, la limite, là, c'est la limite de la sécurité. Ce que raconte le procureur fédéral belge, c'est qu'ils ont dû, en fait, anticiper l'intervention qui était prévue à 6h du matin. Ils voulaient le cueillir au saut du lit et ils ont dû avancer dans des conditions épouvantables. Il était 16h dans un quartier.
Ça, j'ai compris. Ouais. Ici, on est une émission média. Est-ce que c'est une faute journalistique du Nouvel Obs que d'avoir sorti cette info?
Faute, c'est peut-être exagéré, mais il y a une responsabilité journalistique évidemment à sortir cette info. Et si nous on l'avait eu à ce moment-là, on l'avait, c'est ça, parce que moi j'étais pas BFM à ce moment-là. Vous l'aviez, Pauline?
On l'avait, on l'a retenu.
Voilà. Ouais. Donc on retient ce genre d'infos, ou en tout cas on se met en collaboration avec les autorités et on se coordonne. Faute, c'est difficile de jeter l'opprobre sur un confrère qui a une info et qui décide de la sortir. En tout cas, il y a une responsabilité à sortir d'infos et toutes les infos ne sont pas bonnes à sortir.
Et puis je rappelle, vous n'étiez pas encore aux affaires à BFM TV, Marc-Olivier Fogiel. En janvier 2015, lors de l'attentat de l'hypercachère, c'est Dominique Rizet, journaliste à BFM TV, qui avait donné des infos à l'antenne que les terroristes eux-mêmes ignoraient. Est-ce que depuis, des procédures ont été mises en place à BFM TV pour éviter ce genre de...
Évidemment, mais c'est une erreur, hein, il faut le reconnaître. Évidemment,
il l'a reconnu,
évidemment. Ça s'est passé très rapidement, à 14h l'après-midi. Finalement, on en a beaucoup parlé parce que ça a été ressorti et ça a été pointé du doigt. Sur le moment, personne ne l'avait vraiment vu, c'était dans le flux continu. Mais évidemment que c'est une erreur, évidemment que tout le monde en a conscience, Dominique le premier, et qu'il y a une très très forte prise de conscience de ce genre de choses quand on traite l'information en continu. Évidemment, traiter l'information en continu, aussi de temps en temps, on fait des erreurs. Celle-là en est une forte.
On parle dans ce documentaire de la traque de Salah Abdeslam, il y a aussi celle d'Abdelhamid Abaoud. On en parle juste après une courte pause. Nous sommes avec Pauline Revenaz, journaliste, Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La traque du siècle, documentaire en trois parties ce soir sur BFM TV. Nous sommes avec Pauline Revenaz qui signe ce documentaire, qui le co-signe. Vous n'êtes pas toute seule.
Avec Étienne Grelet à l'image et avec Alexandre Funel au montage.
Et avec elle, son patron en quelque sorte, Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV. Je voulais parler, mais je ne retrouve plus ma feuille, de votre série documentaire qui met également en avant la traque d'Abdelhamid Abaoud, qualifié comme étant l'un des maîtres d'œuvre de ces attentats du 13 novembre. Tout le monde pensait qu'il était en Syrie, mais finalement il était à Paris. Et la personne qui l'a dénoncé, Sonia, a accompagné la cousine d'Abaoud pour le récupérer. Il était caché dans un buisson à Aubervilliers.
Et moi, curieuse comme pas deux, je lui pose des questions et c'est là qu'il me décline son identité. Et ce qu'il a fait et ce qu'il compte faire. Et je lui dis, mais vous avez tué des innocents. Non, il me dit, non, c'est la guerre. Je lui dis, mais nous, on n'est pas en guerre. Il m'a dit que quand il se levait le matin, il m'a dit, je vous vois comme des morceaux de pain et de sucre blanc, j'ai envie de tous vous faire sauter.
Vous avez évidemment masqué la voix de Sonia. Comment va-t-elle aujourd'hui? Et la question se posait de savoir si elle allait ou non témoigner au procès, Pauline Revenaz.
Elle va venir témoigner dans quelques mois, dans des conditions de sécurité maximales, vous l'imaginez. C'est une femme qu'on doit remercier, je crois, parce qu'elle a décroché son téléphone, elle a appelé le 197, il faut quand même un certain courage pour le faire, dénoncer la personne qu'elle hébergeait et à dire aux enquêteurs, Abaoud, vous croyez qu'il est en Syrie, il est dans un buisson, et il faut aller le chercher, parce qu'il y avait une urgence, parce que, d'après lui, il préparait un attentat à la défense.
Et c'est même encore plus complexe que ça, parce qu'il y a de l'humain dans les attentats, c'est ce que vous racontez, que là encore j'ignorais, elle collabore avec les services antiterro, RIST, elle arrive là où la chose se passe, et on ne la croit pas, et on lui demande de se déshabiller pour être certaine qu'elle n'ait pas de bombe sur elle.
Mais parce
c'est une sorte d'humiliation, et elle accepte cette humiliation au nom de la vérité.
Elle l'accepte, mais parce que les enquêteurs, ils pensent quoi? Ils pensent que c'est un piège, ils pensent que les terroristes, c'est la meilleure manière de mettre un maximum de force de leur devant et de se faire sauter. C'est ce qu'on appelle le danger des bombes humaines. Et ça, ils le savent, les enquêteurs. Donc oui, elle a eu un énorme courage, et je pense que son témoignage au procès sera très très important.
Vous avez également échangé avec la mère d'une victime, il s'appelle Valentin, il a été assassiné à l'âge de 29 ans au Bataclan.
26 ans.
26 ans, pardon. Est-ce que les proches des victimes sont prêts à revivre ce moment lors du procès? Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont ne pas y aller?
Eh bien, c'est très partagé. Il y en a qui ont envie d'y aller, il y en a qui ont envie de voir les accusés, il y en a qui n'ont pas envie de leur parler. Et puis, il y en a qui n'ont pas la force d'y aller. Je pense que c'est un moment très dense pour tout le monde. Et c'est aussi, au-delà des victimes, c'est un moment de la nation. C'est pour ça qu'on appelle ça un procès pour l'histoire. C'est que tout le monde va revivre, en fait, ces moments-là. On sait tous on était ce soir-là. En revanche, chacun avec son degré de douleur et de chagrin. Et c'est ça qu'il faudra entendre aussi. Il y a une armée de psychologues qui vont être là, aux abords du palais de justice, pour aider chacun à pouvoir traverser cette épreuve qui dure 9 mois.
Et comme vous l'avez vu, Philippe, ces parties civiles ont des bracelets de différentes couleurs pour indiquer aux journalistes celles qui veulent ou non être interviewées, celles ou non qui veulent être filmées. Et donc, il y a toute une organisation pour préserver ces parties civiles et ces familles de victimes qui n'ont pas envie d'être confrontées aux médias pour pas mal d'entre elles.
J'allais justement vous parler de ça, Marc-Olivier Fogiel. Quel sera le dispositif que BFM TV ne va pas manquer de mettre en place tout au long de ce procès qui dure 9 mois, vous l'avez rappelé?
Le service police-justice de BFM TV, qui est un service conséquent dans la maison, va se déployer à partir de mercredi, évidemment, pour faire suivre ce procès. Évidemment, pas les 9 mois, mais chaque moment fort du procès, les journalistes vont rester en salle d'audience et puis tout au long de la journée vont faire vivre ce moment, comme le dit Pauline, historique, puisque ça fait écho dans la vie de chacun. Il y a ceux qui ont été directement touchés dans leur chair, mais il y a tout le monde finalement a vécu ce moment-là de façon très, très particulière. Et donc, ça va être un moment fort pour BFM TV, qui a un lien assez particulier aujourd'hui avec ses téléspectateurs, on l'a développé ce lien, et donc toutes ces actualités qui font écho à la vie de chacun, on les fait vivre d'une façon humaine sur la chaîne.
En dehors de ça, il y a la rentrée de BFM TV. Mm-hmm. Marc-Olivier Fogiel, c'est la question traditionnelle à un patron de chaîne. Quelle nouveauté pour cette rentrée ?
En fait, on a perfectionné nos avant-soirées, notamment en accueillant Yves Calvi, qui est là tous les soirs à partir de 18h50, donc de 18h50 à 20h, puis Natacha Polony. Avant ça, à l'heure du déjeuner, on accueille quelqu'un qui connaît bien la maison, Pascal Latour-Dupin, qui fait une tranche d'informations un peu différente, assez conviviale, qui est assez différente de ce qu'on pouvait faire sur BFM TV. Et puis aussi, et peut-être pas surtout, mais aussi, moi je prends beaucoup de plaisir depuis la semaine dernière à retrouver Marshall et Truchot ensemble à 16h50. C'est un duo important d'une radio concurrente d'ici qui est dans le groupe
Les
qui
Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules. Et ils avaient chacun une émission différente sur la chaîne. Et il y a une forme de jubilation de les retrouver ensemble tous les jours à 16h50. Donc en fait, pas mal de nouveautés qui finalement crante un peu davantage ce que j'essayais de faire depuis 2 ans, c'est-à-dire incarner encore de façon un peu plus forte la chaîne et avoir des tranches un peu plus différenciées.
Et les audiences ?
On ne va pas se plaindre, on touche du bois, chaque jour est différent, mais on a fait une très bonne rentrée, on a fait une rentrée solide, forte, BFM est en forme, mais voilà, c'est le boulot d'une équipe
vous êtes en
entière.
Tête. Vous êtes en tête sur la journée, vous n'êtes pas en tête tout le temps, il y a toujours CNews, pardon, je disais ITL, c'est à l'ancienne, ITL est devenu CNews devant vous avec Éric Zemmour, moyenne de 600 000 téléspectateurs contre seulement 300 000, la moitié pour Yves Calvi.
C'est pas nous, on ne regarde pas ce que font les autres, on regarde ce qu'on fait, très objectivement, Yves Calvi, il fallait qu'on renforce notre 19-20. Il l'a renforcé de façon conséquente. Aujourd'hui, on a un 19-20
solide. Vous regardez
solide.
Un peu ce que font les autres. Pascal Praud, vous taille des croupières avec un débat. Vous avez placé Natacha Polony qui fait une émission de débat. Ça ressemble beaucoup, non?
Alors, vous n'avez pas dû regarder si vous trouvez que ça ressemble. Ça ne ressemble pas du tout, même d'une certaine manière. Non, en fait, évidemment, globalement, on regarde ce que font les autres. Autrement, ça serait une erreur professionnelle. Mais on ne construit pas notre grille de leader en fonction du challenger. Donc, en fait, nous, entre 19h et 21h, il y avait mieux à faire que ce qu'on faisait l'année dernière. On avait avancé tout au long de la grille, pas suffisamment là. On a donné une incarnation plus forte à 19h et une offre différenciée à 20h. Et ça marche, mais aujourd'hui, on ne challenge pas CNews. Aujourd'hui, on est très largement devant et on perfectionne les tranches qui doivent l'être, et notamment ce 19-21. Mais peut-être que demain, Éric Zemmour n'occupera plus le 19-20 de CNews.
S'il se présente à la présidentielle, justement, ça serait une bénédiction pour vous.
C'est pas notre sujet, très objectivement. Notre sujet, c'est de faire la meilleure émission possible à 19h avec Yves Calvi.
Dernière petite question. Pendant la conférence de presse de rentrée, vous avez explicitement dit que BFM TV, c'était les faits, FAITS. Vous avez recruté Manuel Valls, qui n'est pas journaliste, mais un commentateur. Il n'y a pas une contradiction ?
Alors, vous n'avez pas entendu toute la conférence de presse, puisque c'est d'abord les faits, c'est la valeur ajoutée de cette rédaction. Il y a 250 journalistes qui se déploient à l'instant T dès qu'il se passe quelque chose. Mais si ce n'était que les faits, ça ne serait pas intéressant. C'est d'abord ça. Et ça, on n'y a pas touché. C'est l'ADN de la chaîne. Et c'est tout le reste. Le décryptage, le commentaire, l'opinion, mais avec un S. et pas sans S.
Merci beaucoup Marc-Olivier Fogiel. Merci, je Philippe. Rappelle que vous êtes directeur général de BFM TV. Avec vous, avec nous, Pauline Revenaz, co-auteur de La Traque du siècle, série documentaire sur la traque des attentats du Bataclan du 13 novembre. C'est pas seulement le Bataclan, malheureusement, c'est diffusé ce soir sur BFM TV. Merci d'avoir été avec nous en
avec
direct.
Une interview derrière de Manuel Valls, derrière le doc, puisqu'il était évidemment en responsabilité à ce moment-là.
Il était Premier ministre.
Et il était Premier ministre, et il y a une interview derrière. Et je vous donne une petite info, puisque ces séries documentaires sont aujourd'hui une signature forte de BFM TV. J'étais venu vous voir pour Dupont de Ligonnès, aujourd'hui pour cette série documentaire. Et la prochaine concerne cette famille dont vous avez peut-être lu des papiers dans le 11e arrondissement, cette espèce de secte, cette famille qui vit entre elles, qui se marie entre elles. Et c'est la prochaine série documentaire de BFM TV dans deux mois.
Merci beaucoup pour cette info en avant-première. Merci Marc-Olivier Fogiel. Dans un instant, Antoine Decaune qui vient dans ce studio parler de son émission Profession. Mais là, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus soft. Quoique c'est un rapport malheureusement avec le Bataclan. Spécial musicien et musicienne, c'est ce soir sur Canal+. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Antoine Decaune.
Ah bonjour Philippe Vandel.
Pardon de vous accueillir un matin où on m'a dit je suis pas bien réveillé, homme de télévision, enfant du rock. On vous a connu dans Nulle part ailleurs avec Philippe Gildas, avec José Garcia, mais auparavant dans Chorus, de ce qui s'appelait encore Antenne 2. Et je ne cite pas cette émission par hasard. Vous êtes également comédien, on peut vous voir dans Kaamelott, qui a été le gros carton de l'été au cinéma, réalisateur, Coluche, l'histoire d'un mec, disponible sur les bonnes plateformes. La dernière fois que vous étiez venu nous voir, c'était en décembre 2019, vous en souvenez ou pas ?
Pas du tout, c'était un matin.
Ouais, et vous aviez fait l'émission en caleçon. Vous aviez pris un déluge sur la tête en débarquant un scooter.
Oui, exact,
vraiment, Antoine
exact.
Decaune a enlevé son pantalon, il a fait toute l'émission en calbute. Et cette fois-ci, c'est vous qui mettez à nu vos invités. Haha, humour. Vous avez repris l'émission de Canal+, Profession, lancée à la base par Michel Denisot. Racontez le principe de l'émission.
Le principe est très simple, on est autour d'une table avec des invités qui pratiquent tous le même métier et on est là pendant une heure à ne parler que de ça, c'est-à-dire en évacuant toute promo, toute considération trop actuelle, dans un décor qui ressemble à tout sauf un décor de télévision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de lumière violente, on n'est pas interrompu par des jingles, on n'a pas de magnéto à lancer, on a juste une conversation pendant une heure. On fait de la radio, me direz-vous.
Je souris parce que j'ai des magnétos à lancer, moi, c'est pour ça que je me marrais.
Avec des, voilà, une très belle mise en image. Et du coup, on est vraiment concentré sur ce que les gens racontent.
Alors, vous avez déjà exploré les professions de photographe, dessinateur de BD, romancier, même pâtissier. En fait, dessinatrice, romancière, pâtissière, actu immédiate. Ces professions musicien/musicienne, 22h35 sur Canal+, c'est très très difficile à dire car le titre est en écriture inclusive. Pourquoi j'en parle ? Parce que vous avez fait cette confidence, l'écriture inclusive me fait mal aux yeux. Et donc je me dis, tiens, il n'a pas son mot à dire sur sa propre émission.
Ah, sur ma propre émission, si, mais après sur la communication, et j'ai rien contre l'écriture inclusive, ça me saoule un peu quand je le vois écrit comme ça, parce que ça complique tout. Il y a acteur, point, trice, c'est pas très joli à voir. Donc là, en plus, musicien N, c'est pas l'intitulé exact, puisque là, on parle aujourd'hui d'auteur-interprète. Auteur-compositeur-interprète, donc c'était un peu long à...
Vous avez répondu une partie de la question qui allait arriver. Comment les avez-vous choisi, ces six-là ? Il y a Ayo, Eddie Depreto, Woodkid, Isia, votre copain Stéphane Echer et la chanteuse Pomme. Comment les avez-vous choisis ?
L'idée, c'est d'avoir toujours des gens qui représentent un peu le moment, l'époque, et venant de tendances différentes. Donc, il y a toujours un peu le rôle du senior, là, qui est tenu en
Stéphane Echer.
Par Stéphane Echer, qui a vécu toutes ces modes, qui les a éprouvées. Et puis, d'autres approches, de Préto, qui est vraiment de la... qui vient du rap, mais qui est dans une musique urbaine, je ne sais même pas comment ça se définit, c'est un chanteur magnifique. Isia, qui elle est très rock'n'roll, Pomme, qui vient d'une influence un peu plus folk, Ayo, une musique un peu plus world, enfin bon, voilà, tout le monde a son approche.
Et Woodkid et ses machines.
Et Woodkid et ses machines, bien sûr. Et l'idée, c'est de voir ce qu'il peut y avoir de commun dans ce même métier qu'ils pratiquent tous.
Alors au début, ça
et
commence...
Donner, donner envie aux gens de le faire à leur tour, si toutefois ça les tente.
Alors, l'enchaînement va être pas facile parce que ça débute un peu comme une réunion d'alcooliques anonymes. Ils sont tous là autour de vous.
Ils sont tous alcooliques, il faut savoir.
Et personne ne veut répondre en premier.
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que la musique adoucit vraiment les mœurs ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vérifié auprès de ceux qui vous écoutent l'effet qu'elle pouvait avoir sur eux ? Je parle ici d'adoucissement, bien sûr. qui s'y colle? Ah, c'est toujours la première question, je sais. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, il faut qu'il y en ait un aller qui aller se quoi, jette à l'eau.
Alors, personne ne veut parler. Et vous avez laissé ce moment.
Oui, bien sûr, évidemment.
Parce que normalement, je vais expliquer quelque chose, en télévision, quand il y a un blanc, on coupe.
Moi, j'adore les blancs. Ouais. J'adore les blancs en télévision. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que la conversation démarre. C'est-à-dire que c'est comme un diesel. Hein. Ouais. Si ça démarrait tout de suite, tout feu, tout flamme, bon. ça se met en route, ça se place, et puis après, la tension monte.
Évidemment, évidemment, on va y venir. Vous demandez à chacun de raconter ses débuts sur son instrument, la guitare, le piano, le violoncelle. Vous êtes très discret. Pourquoi vous ne racontez pas vos débuts à la batterie à l'âge de 13 ans?
Parce que je ne veux pas infliger cette épreuve.
Pourquoi vous ne parlez pas vous-même de vous-même?
Parce que moi, j'ai rêvé d'être musicien. Oui, j'ai rêvé d'être musicien, j'ai rêvé d'être batteur. Et puis, comme j'étais un exécrable batteur, j'y renonçais assez vite. Et puis surtout, je n'étais qu'instrumentiste. C'est-à-dire, je pouvais accompagner, mais je n'avais pas de musique, je n'avais pas de solfège, et donc, ça me condamnait à passer ma vie à accompagner des gens qui eux-mêmes écrivaient de la musique. Et je me suis rendu compte des limites du genre assez vite, surtout en étant un mauvais batteur. C'est-à-dire un batteur qui avait plutôt tendance à ralentir le groupe qu'à le pousser. Voilà pourquoi je ne suis pas devenu batteur.
Voilà. Vous avez été très touché. D'un mot, Charlie Watts.
Ah,
le batteur de Rolling Stone.
Mais oui, Charlie Watts. Alors, vous m'aviez posé la question.
Oui, je voulais vous faire réagir. Je vais arrêter d'en parler en direct.
Je déteste les réactions à chaud du genre ah mais quelle perte, etc., etc. Charlie Watts était un immense batteur. Il y a eu deux grands batteurs dans cette période-là, Ringo Starr et Charlie Watts. Et puis évidemment les Keith Moon et puis les John Bonham. Oui, évidemment. Non, mais je parle des deux groupes leaders Beatles et Rolling Stones, qui avaient en commun tous les deux d'avoir des grands batteurs. Des grands batteurs très différents, Ringo Starr, très musicien, très, très chaloupant, et Charlie Watts, qui lui était l'assise rythmique, et avec une manière de battre qui était héritée du jazz d'ailleurs, parce qu'il était très au fond du temps. Ouais,
il tenait les baguettes en plus comme un jazzman.
Ouais, et puis vraiment un truc super efficace et pas très décoratif. Et j'ai été outré récemment en voyant dans un journal, qui s'appelle Marianne, le papier d'un jeune homme dont j'ai déjà oublié le nom, disant que c'était un batteur très surfait, surestimé. Non, c'était un batteur génial, Charlie Watts.
Pour se mettre dans l'ambiance et pour qu'on revienne à votre émission, vous demandez à chacun de raconter la première chanson qu'il a composée. Isia raconte que c'était en troisième. Elle était beaucoup moquée en classe, notamment à cause de son physique. Témoignage.
J'étais dans un collège un peu terrible où on classait les filles par leur physique et tout ça, ce genre de trucs-là. Un peu comme Janis qui a été élu garçon le plus moche de son école. Elle avait 15 ans de Joplin. Ouais. Et c'est garçon le plus moche quand même, c'est assez flippant. Les gens sont tellement cruels. Et ouais, j'étais vraiment pas à ma place, j'aimais pas l'école et j'avais pris ma guitare et j'ai fait tout en croche avec vraiment les quatre accords que t'apprends à ton premier cours de guitare. Et c'était un morceau qui était sur mon premier album et j'ai ouvert avec ce morceau seul sur scène.
Et alors, on a trop envie d'entendre le morceau et pourtant, il passe pas le morceau. Mm-hmm. Pour quelle raison? Antoine Decaune va nous le dire. On marque une pause, on fait pas comme Antoine Decaune. Ça s'appelle Profession, l'émission s'appelle Culture Média. Antoine Decaune avec nous, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Profession, musicien ou musicienne, c'est ce soir à 22h30 sur Canal+. Un tour de table, 6 musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, compositeurs, compositrices et Antoine Decaune. Avec nous dans ce studio, il y a un moment d'émotion. Vous évoquez la scène, vous évoquez le confinement, parce que ça touche évidemment beaucoup de gens et d'artistes. C'est Isia qui en parle, vous posez la question comme ça, benoîtement. Submergée par l'émotion au point qu'elle se mette à pleurer.
Pour moi, la musique, d'en parler comme ça autour d'une table, raisonnablement. Non, mais c'est ça, en fait. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va crever si on n'en fait pas. ou alors autre chose, j'en sais rien, mais que la créativité, profondément, évidemment, ça nous habite. C'est des sentiments qui ne sont pas forcément. Qu'on peut décrire, dont on peut parler, évidemment. Ça fait 2 ans que je ne suis pas montée sur scène. Avant ça, ça faisait 3 ans que je n'étais pas montée sur scène. En 5 ans, j'ai fait 30 concerts. Mmh. Franchement, ça ne me rend pas très heureuse, quoi. C'est clair, je ne suis pas heureuse, quoi.
Vous êtes heureuse sur scène?
Ouais. Et là, je ne suis pas en ce moment et c'est vachement dur, quoi.
Oh. Là, tu peux aller. Oh. Tu peux aller, là.
Mais non, mais c'est comme ça.
Mais ça va revenir, on vous attend sur scène.
Non, c'est clair.
C'est thérapeutique, c'est ça.
Ouais. Et c'est pas...
Non, mais c'est ça. C'est ce que j'essaie de raconter, c'est qu'il y a
Oui, mais c'est vrai que c'est viscéral et c'est pas les mots qui expriment forcément ça. Et voilà, c'est tout.
moment très touchant que vous n'avez pas coupé non plus à propos du confinement, Antoine de Caunes. Vous dites que la fermeture des librairies était une catastrophe.
La fermeture des librairies était une catastrophe, mais pas pour Isia.
Non, mais pour vous. Pour quelle raison, pour vous ?
Pour moi, parce que je passe...
Parce qu'on a tous des dizaines et des dizaines de livres en retard.
Ah, moi, je passe un temps fou dans les librairies. J'ai un besoin vital de me promener dans les librairies, de feuilleter les livres, de discuter avec les libraires. Donc, me priver de ça, ça a été vraiment terrible. Mais rien en comparaison de la privation de la scène pour les musiciens avec lesquels je parle ce soir. Là, ils viennent tous de passer une anus horribilis, comme dit notre reine bien-aimée.
Exactement, Elisabeth II. Le musicien et producteur Woodkid, ce qui est intéressant dans l'émission Profession, c'est que ce n'est pas une interview people, c'est une interview sur le métier.
Ouais.
Et Woodkid, musicien, producteur, ingénieur du son, évoque un mal nécessaire dans le métier de musicien désormais. Même si on ne veut pas, il faut y être, la présence sur les réseaux sociaux.
Moi, les réseaux sociaux, ça me sort par les trous de nez. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, je n'en peux plus de passer 30% de mon temps à réfléchir à la stratégie qu'on va avoir sur les réseaux sociaux. Ouais. Ce n'est pas mon métier. Ouais. Je ne vais pas en devenir un TikToker, je ne vais pas en devenir un YouTuber. Ça me sort par les trous de nez. Par contre, il faut le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Effectivement, on peut être insouciant, mais il faut aussi être extrêmement vigilant. Il faut être vigilant et attentif. C'est-à-dire que le monde, il change. On ne peut pas être en... pas être en colère contre le monde constamment. C'est juste que... Moi, ce qui m'épuise, c'est presque pas de le faire, c'est de devoir toujours avoir un point de vue sur le curseur.
Il est où votre curseur sur les réseaux sociaux, Antoine de Caunes ?
Oh là là, non, j'y suis évidemment. J'essaye de contrôler ça et de m'en servir comme un outil de proscription pour dire conseiller aux gens des choses que je remarque ou bien leur donner rendez-vous quand je fais des émissions pour les avertir de ce qui va s'y trouver.
Mais pas davantage.
J'évite en fait de lire tous les commentaires, par exemple, ce qui fait gagner beaucoup de temps parce qu'on a toujours envie de rebondir derrière. Mais pour rebondir sur ce que disait Woodkid. On a connu une époque quand même où, pour les musiciens, c'était beaucoup plus simple. On sortait un disque, on faisait éventuellement quelques images, un clip derrière pour l'accompagner, mais ça, c'était après les années 80. Et puis voilà. Et puis voilà, un petit circuit promo, et puis on montait sur scène. Là, aujourd'hui, il y a un besoin, une nécessité d'être en communication permanente. Ce qui, pour des artistes, n'est pas du tout quelque chose de naturel. Enfin, c'est un job en plus. Et puis, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise et plus ou moins doués avec ça.
Il y a 6 chanteurs autour de la table pendant 52 minutes et c'est assez rare pour être signalé. Pas de musique, pas une chanson, pas un fredonnement. Mm-hmm. Pourquoi ce choix ? Alors quand la profession c'est pâtissier, évidemment vous n'allez pas mettre des éclairs autour de la table, mais là quand même ils font de la musique pour y avoir de la musique. Pourquoi ce choix, Antoine ?
Parce que la musique on en a partout. On en a partout et justement le principe c'est la parole.
Ouais.
Le principe de profession c'est qu'on parle et qu'on essaye d'expliquer la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait et pourquoi il est absolument impossible qu'on puisse faire autre chose. Inenvisageable de faire autre chose, pour la nécessité qu'il y a à faire ce métier. Et pour moi, l'émission est réussie quand elle donne envie, quand des mômes qui écoutent ça se disent « Ah ouais, quand même, il vient de si loin que ça, ça a été tellement difficile et y arriver quand même, bon, peut-être on va essayer. »
Il y a même une séquence extrêmement frustrante à la fin, vous demandez à vos invités quelle serait la chanson qu'ils auraient aimé écrire, et on l'entend même pas.
Ouais. Non, après je leur passe un son à la fin quand même. Si, il y a un son dans cette émission.
Ouais. Oui, il y a un petit son comme ça. Non mais c'est un choix, il y a quelque chose de sadique, vous êtes posé la question. Ou alors j'ai retrouvé une interview de vous, c'était dans le Midi Libre en septembre 2019, vous avez dit « À la télé, les gens qui chantent, ça m'emmerde profondément.
» Oui, j'ai pu dire ça, oui. Enfin, ça dépend qui. Hein. Tout ça est relatif, évidemment, parce que j'ai fait chanter beaucoup de gens,
évidemment.
Moi-même, à la télé.
Évidemment.
Non, c'est une émission où on dit que la parole est au centre. Et ben voilà, pendant une heure, justement, on s'offre le luxe de ne jamais être interrompu.
Prochain thème de profession ?
C'est le cheval.
Ah oui ?
Oui.
Et vous avez toujours l'idée de recevoir des toreros ?
Pas des chevaux qui parlent,
hein, mais
des gens qui font profession autour du cheval, c'est-à-dire des écuyers, jockeys, des gens qui font des concours, des cascadeurs.
Bon.
Et cette émission est absolument passionnante, je vous le dis tout de suite.
On va faire à la mitraillette. Autre émission sur Canal+, la Gaule d'Antoine. Vous faites le Tour de France à votre manière.
Mm-hmm.
Ça continue toujours.
Oui, alors là, c'est la Suisse. Là
vous serez la Gaule d'Antoine sera en Suisse.
Ouais.
Et puis, il y a un autre projet, c'est un livre qui va sortir le 14 octobre, mais qui est déjà entre bonnes mains. Ça s'appelle Perso, avec un S entre parenthèses. C'est pas vos mémoires, mais c'est vos souvenirs. C'est quoi ce livre ?
C'est pas des mémoires, non, ça je vous rassure.
Ouais.
C'est un livre constitué de petites histoires. Des histoires, c'est des gens que j'ai rencontrés, des situations que j'ai pu vivre. Je dirais, ça ressemble à des mémoires, certes, mais c'est pas des mémoires.
Il y a quelque chose de très douloureux quand même, j'étais vraiment surpris. Après la fin du Grand Journal, vous racontez que vous étiez en dépression.
Ouais. Ah ouais, le contre-coup a été rude. Le contre-coup a été rude parce qu'on était reparti pour une troisième saison. Donc on était en chauffe, on était en piste, on avait tous les conducteurs prêts. Et puis un brutal changement de vie, comme ça arrive souvent dans ce métier. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai, Philippe. Ouais. Donc le temps de se restabiliser, voilà, ça a correspondu à une petite déprime.
Et maintenant, c'est revenu.
Oh oui.
Antoine Decaune, oh oui, profession, musicien, musicienne, ce soir à 22h35 sur Canal+, et également quand on veut sur MyCanal. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. Bruno Donnet pour Télescopage, il a regardé hier pour nous le débat des candidats à l'élection présidentielle du côté des Verts. Notre invité, c'est la comédienne Zabou Breitman. Et puis dans Les Indispensables avec Margot Barallon, on va aller danser à l'Opéra de Paris. Et puis Guillaume Benesch va nous parler du premier album d'un jeune rappeur, l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray, en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.